Alors, c'est vraiment une joie pour moi de participer dans cette réunion avec vous et de retour à l'Église Nouvelle-Ville-la-Prairie. Puis merci à vous. Merci à vous d'avoir choisi d'être avec nous. Malgré les règlements, les consignes, protocoles, il faut s'inscrire, distanciation, porter des masques. Alors, merci que malgré toutes ces choses, tous ces règlements, vous êtes là avec nous. Combien c'est? C'était plus facile d'aller à l'Église dans le bon vieux temps, hein? Vous vous souvenez du bon vieux temps, l'année 2019? Hein? C'était tellement plus facile d'aller à l'église en pleine liberté. Mais depuis un an et demi et les dernières semaines, c'est plus difficile d'être à l'église. Mais malgré tout ça, vous êtes là. Et c'est une joie d'être avec vous et surtout être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur hein, pour sa fidélité, sa bonté, sa grâce. On est là à travers tout ce qu'on a passé et tout ce qu'on a vécu ensemble depuis un an et demi. Nous voici ensemble avec un sourire sur notre visage. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Jésus mérite plus qu'un applaudissement poli. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Quand on parle d'un pasteur ou d'un invité, là, on fait un petit applaudissement poli pour lui faire du bien. Mais Jésus mérite une ovation debout. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? All right, on n'a pas le droit de crier, mais nous avons le droit d'acclamer et applaudir. Alors, donnons un applaudissement debout. Une ovation au Seigneur Jésus. Digne de louange d'adoration, on est tellement heureux d'être en sa présence. Et l'Église avance malgré les défis, malgré la pandémie, malgré COVID, malgré les consignes. L'Église du Seigneur Jésus-Christ avance ici au Québec, à l'Église Nouvelle-Vie, partout sur la planète. Parce que le Seigneur est bon, il est le chef de l'Église, la tête, le maître de la moisson. Le Seigneur et nous dirige. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série de messages sur le Dieu trinitaire. Trois en un, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que nous appelons le mystère de la Trinité, mais qui pour moi est plus qu'un mystère, c'est une merveille. C'est un mystère merveilleux. Pensez-y, trois en un, Père, Fils, Saint-Esprit. Selon moi, c'est un « wow » miraculeuse de synergie divine. C'est un « wow » pas seulement de synergie divine, mais c'est un « wow » d'harmonie, d'unité, d'humilité et d'amour. À un tel point que nous ne pouvons pas distinguer ni séparer l'un de l'autre. Trois en un, parfaite symbiose. Alors, pour ceux qui ont demandé la question suivante en réponse à notre sondage sur le sujet, parce que comme vous savez, on a envoyé un sondage, plusieurs centaines de personnes ont répondu sur leurs questions, un peu leur concept sur la Trinité. Et à la personne qui a demandé, mais comment plaire au Saint-Esprit? La réponse est facile. Pour plaire au Saint-Esprit, il faut plaire au Fils et au Père. Car plaire à un, c'est de plaire aux trois, trois en un. Et non seulement que plaire à un, c'est de plaire aux trois, mais aussi de prier à un, c'est de prier aux trois. Ça règle le problème de « à qui devrais-je prier? » qui faisait vraiment partie des questions qu'on a vues sur le sondage. Les gens étaient un peu confus sur « mais qui devrais-je prier? » Well, l'unité parfaite du 3 en 1 élimine la confusion au sujet de qui prier. Les gens demandaient « mais est-ce que je prie le Père au nom de Jésus? Est-ce que je prie Jésus par le Saint-Esprit? Est-ce correct de prier le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut prier les trois en même temps? Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit directement? » Lorsque je ressens le Saint-Esprit, est-ce que c'est la même personne que Dieu le Père? Et la réponse à toutes ces questions est oui. Pas de différence, pas de souci. Car c'est l'acte de prier qui compte, et non pas la forme ou à qui exactement nous adressons nos prières, qui règle aussi les autres questions et soucis que les gens expriment. Quand je prie, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont mieux à demander au Père, d'autres au Fils et encore d'autres au Saint-Esprit? La réponse est non. Est-ce que je dois faire une différence entre la voix du Saint-Esprit, Dieu le Père et Jésus? Encore non. Parce que la voix de l'Esprit est la voix de Jésus et le Père. Chaque mot adressé à Jésus est un mot adressé au Père et l'Esprit et vice-versa. Trois en un, pression enlevée. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et pour ceux qui demandent, Quand doit-on s'adresser au Saint-Esprit? La réponse est simple, quand vous voulez. Il n'y a pas de règle. 3 en 1. Liberté. Car ce n'est pas un concours de popularité entre les trois, et Dieu n'est pas offensé, peu importe à qui nous parlons, prions et écoutons. Car il n'y a pas une iota de séparation entre les trois. 3 en 1, parfaitement unis dans tous les sens. Comprenez quelque chose. Jésus n'est pas au ciel en train de se plaindre à son Père que quelqu'un s'en prie plus souvent au Saint-Esprit que lui. Et le Saint-Esprit ne pleure pas parce qu'il semble avoir plus de chants composés au nom de Jésus qu'à lui. Est-ce que vous me suivez? Et le Saint-Esprit n'est pas là attristé parce qu'il y a des familles d'Église qui parlent plus souvent du Père et le Fils, mais jamais de lui, ni de son action, ni de ses dons. Non, jamais. 3 en 1, ensemble et unis en tout temps, depuis à peu près toujours. Et quand je dis toujours, je parle du temps infini. Lisez Jean chapitre 1 dans votre Bible, ça parle comment que le Père, le Fils, le Saint-Esprit existent depuis temps infini, depuis toujours. Et selon Jésus, cette unité divine sert d'exemple pour nous. Remarque la prière en Jean chapitre 17 de Jésus. Il dit, « Père, je prie, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors, l'unité est quelque chose non seulement à admirer, mais à imiter. Parce qu'imaginez tout ce que nous pouvons faire pour et avec Christ si on était unis en mission, vision et amour comme Dieu est. Et lisez chez vous Jean chapitre 16 et Jean chapitre 17, parce que ça nous donne un portrait poignant de comment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis et agissent en faveur des enfants de Dieu. Mais non seulement ça, ça démontre et exprime aussi le cœur de Dieu pour l'unité parmi ses enfants, l'unité parmi les croyants, l'unité dans la famille de Dieu. Jésus a prié, il dit, « Qui je prie qu'il soit un comme nous sommes un. » Alors, ce n'est pas seulement à admirer, mais aussi à imiter. Et ça, ça n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis la pandémie, il y a tellement d'opinions, sujets controversés, théories de complot, tout le monde a une interprétation des choses qui prennent place. Et malheureusement, la pandémie a même créé une certaine division dans le corps de Christ. Et laissez-moi vous dire que ça, ça triste le cœur de Dieu. Nous devons être unis autour du Père, le Fils, le Saint-Esprit, la croix, et pas permettre à rien, aucune crise, opinion, controversée, nous diviser, parce que le cœur de Dieu est pour l'unité, afin que nous soyons un témoin pour le monde. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment une bonne main d'applaudissement pour l'unité que nous voyons en Dieu, qui est un exemple pour nous. Très important, c'est le cœur de Dieu pour l'unité dans l'Église. D'autres questions qu'on avait sur le sondage et sur l'Internet par rapport à ce sujet, il y en a qui ont demandé, mais est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible où une partie de la Trinité agit seule sans les deux autres? La réponse est non. Pourquoi dit-on que les trois personnes ont chacune leur saison et qu'actuellement, c'est la saison du Saint-Esprit? Ça, ça vient du concept erroné que l'Ancien Testament, c'est la saison du Père. Les Évangiles, ça, c'est la saison de Jésus. Après la Pentecôte, c'est la saison du Saint-Esprit. Mais comprenez quelque chose. Il a été depuis toujours et encore aujourd'hui la saison des trois. Dieu existe depuis l'infini comme trois en un et collabore toujours comme un. Nous trouvons Jésus et l'Esprit dans l'Ancien Testament. Nous trouvons le Père et le Saint-Esprit partout dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament. Et merci Seigneur que les trois sont à l'œuvre depuis la naissance de l'Église il y a 2000 ans et encore ici au Québec en 2021. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que vous me suivez? C'est toujours la saison des trois. C'est trois en un, inséparables. Qui répond à la question, est-ce que la Trinité fonctionne toujours ensemble? La réponse est oui, toujours ensemble. Non seulement en parfaite symbiose, mais en parfaite mission, parfaite direction, parfaite vision et collaboration. de la création à l'incarnation de Jésus, l'arrivée de Christ par l'incarnation, ainsi que la mission de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension, jusqu'aux conversions des croyants, jusqu'à la glorification des chrétiens au ciel pour l'éternité. Il est merveilleux la manière que la Trinité travaille ensemble dans les événements les plus importants et marquants de l'histoire du monde et de notre histoire, vous et moi. Comme vous savez, la Trinité n'est nulle part trouvée dans les Écritures. Le mot Trinité n'est nulle part trouvé dans les Écritures, mais les empreintes d'un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous voyons partout, Ancien Testament et Nouveau Testament. En commençant avec la création de l'univers et de l'être humain. Vous connaissez ces paroles en Genèse chapitre 1, la création de la terre, puis on voit le travail des trois. Ça nous dit « la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Quand les gens me demandent si je crois à la théorie du Big Bang de la création, moi je réponds toujours oui. Dieu a dit que la lumière soit et bang, la lumière fut. Ça oui, je crois au Big Bang. Dieu a dit et la lumière fut. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de créer tout de rien par le fiat, l'autorité divine, par une simple parole. Ça nous dit, noir et blanc, que la lumière soit et la lumière fut. On amène à ça. Mais quelle union puissante décrit ici Dieu le Père avec sa parole. Et sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Encore une fois, lisez Jean chapitre 1. Je vous donne des devoirs ici ce matin pour la semaine. Okay? Lisez Jean chapitre 1, Jean 16, 17. Ça vous donne un peu la synergie et l'existence de la Trinité. En Jean chapitre 1, ça dit, c'est qui la parole? La parole est Christ. Il est Dieu, il a toujours été avec Dieu et c'est par lui que tout a été créé. Alors nous avons le Père et nous avons le Fils et le Saint-Esprit pour créer un univers tellement magnifique que selon le livre de Job, ça nous dit à la création que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'était tellement magnifique la création que ça nous dit, les fils de Dieu, les anges, ils réjouissaient, ils poussaient des cris d'allégresse parce que c'était fantastique. Nous servons un Dieu, trois en un, créateur merveilleux. Come on, un bon applaudissement pour la création que Dieu nous offre. Ce qu'il a fait. Impressionnant. C'est pour cela que quand quelqu'un me dit que tout cela, le merveille de l'univers, la terre, l'humanité, tout cela est arrivé d'un morceau de bactérie sur le bord d'une plage ou d'une soupe cosmique ou par un hasard biologique, je réponds toujours, come on, man. Quand nous voyons l'étendue de la création, sa grandeur, sa complexité. Il est plus logique et rationnel de croire en Dieu que croire que tout cela existe à partir de rien ou par la chance ou par l'évolution. Louis Pasteur a dit, « Plus que j'étudie la nature, plus que je m'émerveille du Créateur. » Pour cette raison, nous ne croyons pas que la science et la religion se sont opposées l'un de l'autre, mais plutôt que la science découvre Dieu et non pas le discrédite. Et le plus que les scientifiques découvrent les merveilles de l'univers et la création, le plus que nous voyons l'évidence d'un créateur comme décrit dans la Bible. Et non seulement dû à la beauté de la terre, mais aussi dû à la nature complexe de l'être humain. L'être humain fait à l'image de Dieu, l'être humain de son corps. Ainsi que la nature sentimentale, créatrice, sexuelle et spirituelle de l'homme, avec la beauté, l'imagination, la créativité, la musique, les arts, la capacité créative, l'intelligence, le jugement, l'amour, les inventions, la poésie, la littérature, les langues, le sport, la danse, le théâtre, la production des films, l'imagination, le dessin, l'architecture, la capacité de connaître, découvrir et débattre et comprendre. C'est un merveille de la création de Dieu. Tout cela de rien, non. Ça vient de Dieu. L'apologète renommé Colinus Van Til a dit « Aucune créature rationnelle ne peut échapper à ce témoignage du vrai Dieu dont le visage est devant les hommes partout et en tout temps. L'homme ne peut pas se cacher dans le néant pour échapper à la face et à la voix de Dieu. Chaque fois qu'il se voit lui-même, il est confronté à Dieu. » C'est bien dit ça. Il est impossible de fuir l'évidence de Dieu, car on le voit dans le miroir à chaque matin. Alors, à tous les hommes ici qui se regardent dans le miroir le matin et disent, « Oh, un vrai Dieu, vous avez raison. » Nous sommes faits à l'image de Dieu, preuve de l'existence de Dieu. Alors, tournez à quelqu'un et dites-leur, « Vous êtes la preuve que Dieu existe. » Comment dites à quelqu'un, « Vous êtes la preuve que Dieu existe. » Tournez à quelqu'un d'autre et dites, « Vous êtes la preuve que Dieu a un sens d'humour. » Comment? La créativité vaste et diverse de l'univers, la terre, de l'être humain est l'évidence que Dieu, l'évidence de Dieu comme qu'il est décrit dans la Bible, un créateur trinitaire, merveilleux, puissant, sage, organisé, préparé et capable. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Come on, une bonne main d'applaudissement pour qu'est-ce que la création nous enseigne de notre Dieu. La Bible décrit non seulement la merveille de la Trinité dans la création, mais aussi dans la naissance, croissance et établissement de la nation d'Israël, le peuple de Dieu, comme décrit dans les Écritures. Jusqu'à l'incarnation, l'arrivée du Fils de Dieu dans la forme d'un bébé. Vous connaissez ce passage qu'on cite souvent à Noël. « Car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. » Très important ça. Parce que ça décrit l'incarnation. C'est un travail pas seulement d'un fils, mais aussi d'un père. Pour que l'enfant soit né, non seulement que le Saint-Esprit fallait opérer le miracle dans le sein de Marie, mais il fallait que le Père donne son Fils. Et il fallait que le Fils accepte de passer par la canal de naissance d'une femme pour vivre, souffrir et mourir comme un homme. La merveille de l'incarnation. Mais non seulement que nous voyons la Trinité en action à l'incarnation, mais aussi, on le voit dans l'inauguration, l'onction, l'accomplissement du ministère de Jésus sur la terre, comme décrit en Luc 3 et 4. Remarquez le lancement du ministère de Jésus ici. Comment les trois travaillent ensemble? Jésus le Fils fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. C'est le Père, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et Jésus, encore revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'entour. Le Saint-Esprit oint et conduit le Fils. Le Père l'acclame et l'affirme dans sa mission. Et partout dans la vie, les enseignements et les prières de Jésus, nous témoignons la synergie et l'union des trois en un. Jusqu'à et incluant sa mort, décrit par Matthieu comme un des moments les plus dramatiques et solennel de l'histoire, quand Dieu meurt, impensable, inconcevable, Dieu meurt. Et remarque la manière que Matthieu le décrit, puis on voit la synergie encore, 3 en 1. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Jésus s'écria d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ici, nous avons le Fils qui, pour la première fois depuis toujours, goûte à l'horreur du péché. L'agneau parfait, le Fils de Dieu, il goûte à l'horreur du péché. Il porte sur lui à cet instant les péchés du monde, mon péché, vos péchés. Et c'est pour ça que pour la première fois de sa vie, il pense séparé de son Père. Et là, nous avons le Père qui est là, qui entend sa prière, qui témoigne sa souffrance. Il est là, il accepte par amour. Et là, Jésus pousse de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit. Puis il y en a qui vont dire, on voit le Père et le Fils, mais où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là avec signe après signe après signe autour de la crucifixion. Parce que Matthieu continue. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Père, Fils, Saint-Esprit, dans la crucifixion de Jésus. Magnifique, merveilleux. On les voit partout. Wow! Et par la suite, la résurrection, le Père qui opère un miracle par la puissance du Saint-Esprit, l'ascension, le Père reçoit le Fils au ciel par le Saint-Esprit qui l'enlève, suivi par la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, l'arrivée de l'Esprit sur les croyants avec signes surnaturels et divins comme prophétisés et promis par Jésus, qui conduit vers la croissance explosive de l'Église, ainsi que son établissement et son expansion partout sur la terre, jusqu'ici au Québec en 2021. Tout cela est le travail de Dieu, trois en un. Combien sont d'accord avec moi que c'est merveilleux et magnifique? Come on, encore une autre bonne main d'applaudissement. Wow! Un Dieu qui fait tout ça. Et tout ça, sans parler de son travail en nous, avec nous, dans notre conversion, notre salut. Notre salut planifié et pourvu avec amour et sagesse, qui inclut non seulement le pardon, nous sommes pardonnés, mais c'est beaucoup plus que ça, le salut, que d'être pardonné. Je suis pardonné, puis je vais au ciel. Non. C'est beaucoup plus vaste et riche que ça. C'est pas seulement le pardon, mais la Bible décrit la régénération, l'adoption, la justification, la réconciliation, la transformation en nouvelle créature. Tout cela rendu possible par l'amour du Père, le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Wow! Comprenez, Dieu n'a pas de choix que de juger le mal. Mais dans sa grâce et amour, il nous a pourvu un sauveur. Quelqu'un qui subit le châtiment à notre place, Jésus. Alors c'est quoi l'essence de l'Évangile? C'est Dieu nous sauve de lui-même par le don de lui-même. Wow! Comment ça mérite un wow? Parce que Dieu nous sauve de lui dans le sens qu'il n'y a pas, dans sa justice, il n'y en a pas de choix que d'avoir des conséquences. Il n'a pas de choix que d'appliquer la justice et la loi. On est digne de la mort et le châtiment, mais il nous sauve dans sa justice et son amour de lui-même par le don de lui-même, le don de son Fils qui est Dieu, toi en un. Wow, l'Évangile! Jusqu'au jour ultime de notre rédemption, au ciel pour l'éternité dans un corps glorifié. Un corps glorifié veut dire un corps renouvelé par le Saint-Esprit dans la présence du Père et Fils pour l'éternité. Yes! Mais entre-temps, le toi en un est avec nous. C'est ça la bonne nouvelle. Le toi en un est avec nous, en nous, et s'implique intimement dans notre vie et notre bien-être, notre santé, notre progrès spirituel. Comme si bien exprimé dans cette prière de Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quelle belle façon d'exprimer le trois en un en relation avec nous. Combien sont heureux que le trois en un n'est pas un concept théologique froid, indifférent, un sujet à débattre et discuter à l'école biblique. Non. Le trois en un, c'est la réalité que Dieu est avec moi, Dieu est en moi, personnel, intime, présent. Un Dieu qui me donne accès à sa grâce, son amour et à l'aide de son esprit à tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai besoin de trois en un pour m'aider. J'ai besoin de tout ce que la Trinité m'offre. Amen à cela. Moi, j'ai besoin de la grâce de Jésus, comme l'apôtre Paul l'exprime. J'ai besoin de sa grâce. La faveur non méritée de Dieu, c'est ça que ça veut dire la grâce. Combien sont heureux par la faveur non méritée de Dieu? Hein? Je ne mérite rien, mais le Seigneur est là quand même. Ça, c'est la grâce. Mais j'ai besoin de ça. Non seulement la grâce pour me sauver, Mais la grâce de Jésus pour me soutenir, me garder, me rendre capable de continuer, supporter, travailler pour faire face à des crises et combattre pour des causes. Combien sont heureux pour la grâce de Dieu qui est là à tous les jours pour nous soutenir, nous aider, nous renforcer, nous protéger et nous garder. Merci Seigneur pour la grâce de Jésus. Je le reçois. Est-ce que vous le recevez ce matin? Je reçois cette grâce que j'ai besoin à tous les jours. Non seulement la grâce de Jésus, mais j'ai besoin de l'amour du Père. Que l'amour de Dieu soit avec vous, comme Sandra a partagé sans savoir qu'est-ce que j'étais prêché à la première réunion, mais ça confirme la parole que j'avais aussi sur mon cœur pour vous. L'amour du Père. Pourquoi j'ai besoin de l'amour du Père? Parce que l'amour du Père bannit la crainte en moi. Vous connaissez le passage 1 Jean, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. D'où vient l'amour parfait? Ça vient de notre Père Céleste. Combien sont heureux pour un amour parfait qui bannit la crainte? Yes! Merci pour tes prières, Paul, j'en ai besoin. Parce que s'il y a un mot pour décrire le psyché mondial depuis un an et demi, c'est la crainte. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis un an et demi, la terre entière vit dans la crainte, une sourde dose d'angoisse, une sourde dose d'anxiété. Dû à la COVID, oui, mais aussi dû en grande partie à la voix des médias, que moi j'appelle la voix de la crainte. Et plusieurs voix médiatiques nous donnent toujours des choses à craindre. Il semble avoir un nombre illimité de raisons pour craindre. Depuis plus qu'un an, craignez la COVID. Maintenant, c'est craignez les variants, craignez le Delta, craignez une quatrième vague cet automne. Craignez ceux qui ne sont pas vaccinés, craignez ceux qui ne portent pas un masque. Puis là, il ajoute à cela, craignez la police, craignez les branches suprématistes, craignez le changement climatique, craignez le soleil, craignez la viande rouge et les pets de vache. Regarde, moi, je ne vais jamais craindre la viande rouge. Quand moi, je mets un steak sur le barbecue, je ne crains rien. Je suis dans la joie et la paix. Merci, Seigneur, pour la viande rouge. Moi, je dis toujours, vache cuite est meilleure que poisson cru. Mais non, il faut craindre la viande rouge. Craignez l'huile, le pétrole, les énergies fossiles. Craignez les homophobes, transphobes. Craignez ceux qui ont une opinion contraire. Crains. Toujours quelque chose d'autre. Regarde, comme vous, j'ai une décision à prendre à chaque matin quand je me réveille. Quelle voix que je vais écouter aujourd'hui? Quelle voix vais-je écouter aujourd'hui? Parmi toutes les voix qui crient pour mon attention, quelle voix que je vais écouter? Et vous savez de quoi je parle quand je parle de ces voix-là. Est-ce que je vais écouter la voix dans ma tête? Ou plutôt les voix dans ma tête, il y a toujours plus qu'une. Je ne parle même pas de mon épouse, qui est une autre voix dans ma tête le matin. C'est une voix douce et agréable. Ça fait 37 ans que je suis marié et mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. Par la crainte. Qu'est-ce que vous pensez? Mais vous savez de quoi je parle quand je parle de les voix dans la tête. C'est les voix de mes pensées. C'est les voix de mes émotions. C'est les voix de tout ce qui tourne ici, là. Mes émotions, mes pensées, tout ça. Yeah, hamster. C'est un travail d'équipe un matin. Ou est-ce que c'est la voix de mon corps, avec tous ses désirs, impulsions, appétits? Ou est-ce que je vais écouter la voix de l'ennemi de mon âme qui cherche toujours à semer le doute et le découragement en moi? Ou est-ce que je vais encore écouter la voix des médias que j'appelle la voix de la crainte, comme mentionné? Ou est-ce que je vais écouter la voix de mon Père céleste? Elle est une voix moins agressante, moins in your face que les autres voix, mais elle est quand même constante et claire. C'est la voix qui dit « Je t'aime, ne crains pas. Je t'aime, ne crains pas. » Plus que 300 fois dans la Bible, « Ne crains point. » Merci Seigneur pour la voix de mon Père. Commande un bon main d'applaudissement pour la voix au-dessus de toutes les autres voix, la voix qui bannit la crainte, la voix de l'amour. Tu vas avoir une raison pourquoi que plus que 300 fois dans la Bible, « Ne crains pas. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains pas. » parce que la vie génère mille et une raisons à craindre. Alors, c'est tellement important. Qui allons-nous écouter? Question importante. Car il y a une différence entre être concerné. On est concerné pour tout ce qui prend place. C'est correct d'être concerné. On est compatissant, on est rempli de compassion. Mais une différence entre être concerné et craigné. Parce que la crainte crée une malaise. Ça nous garde réveillés la nuit. Ça nous trouble dans nos pensées. Ça nous tourmente et souvent nous paralyse. Mais la voix de Dieu communique l'amour, la paix, la confiance, le courage. Elle bannit la crainte. Alors, comme vous, j'ai besoin de toi en un dans ma vie. Tout ce que la Trinité m'offre, je le prends. Je suis un projet qui nécessite le Père, le Fils et le Saint-Esprit à ne pas négliger. Moi, j'ai besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, mais aussi la communion de l'Esprit, l'apôtre Paul dit. Quel privilège de développer une relation avec celui qui était impliqué dans la création, l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Quel privilège de développer la koinonia, la communion avec celui qui est là pour me conduire et m'enseigner Christ et me communiquer les choses profondes de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, encore Jean 16, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Combien sont d'accord que les disciples étaient bien dans la présence de Jésus? Il y avait faim, on multiplie le pain. Il y a une tempête, on calme la tempête. Besoin d'un miracle, here it is. Alors, il y avait un avantage. Mais il dit, c'est un avantage que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a des avantages, il dit. C'est pour cela que moi, je tente de cultiver dans ma vie la communion avec le Saint-Esprit, parce que moi, je veux vivre ces avantages que Jésus parle. Il y a des avantages, il y a des bénéfices qui viennent avec l'arrivée de l'Esprit sur tout le corps de Christ. Accès à Dieu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça mérite un amen. Quel avantage, quel privilège. Il dit, c'est un avantage. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je souhaite pour vous une communion avec l'Esprit. Puis le mot grec pour communion ici, c'est le mot koinonia. Koinonia, qui est un mot grec qui veut dire fraternité, partenariat, échange, communication. Quelques traductions de vos Bibles, ça dit la communication de l'Esprit. Parce que ça signifie une relation intime, ouverte et fluide. Mais savez-vous qu'il y a seulement une façon pour la personne qui dit, « Moi, j'aimerais avoir la koinonia avec l'Esprit, la communion avec l'Esprit. Quelle manière? » Oui, il y a seulement une façon, une, que nous pouvons cultiver une telle communion. Il y a une chose sans laquelle koinonia avec l'Esprit est impossible, un ingrédient essentiel, et c'est le temps. C'est le temps. De lui donner le temps. Pour développer le koinonia avec l'Esprit, il faut lui donner du temps. Il faut arrêter, écouter, demeurer en sa présence, parce que le Saint-Esprit est une personne et non pas une force. Puis il n'y a pas une autre manière de développer la communion avec quelqu'un, le koinonia et la communauté, que passer du temps avec cette personne-là. Il n'y a pas de détour, pas de parole magique, pas de raccourci. Il faut prendre du temps. Si moi je vais vous connaître, il faut que je prenne du temps avec vous et vous avec moi. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il faut lui donner le temps. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est comme ça qu'on développe communion, parce qu'il est une personne. Quelqu'un a écrit sur l'Internet, « Étant jeune, on nous décrivait le Saint-Esprit comme du vent. » C'était pas mal flou. Un autre a dit, « Je dirais que le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est une puissance. » Non et non. Le Saint-Esprit est ni le vent, ni une puissance, ni le feu, ni une force, et surtout pas un oiseau. Il est une personne. Il est Dieu. Avec une volonté, des émotions, quelqu'un qui agit, communique, dirige, partage. Et parce qu'il est une personne, comme j'ai dit, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de parole magique pour cultiver une relation profonde avec lui, que le koinonia, c'est à être avec lui. Koinonia sans communauté est impossible. Dont la nécessité de vivre ensemble, dont la nécessité d'être ensemble. Le plus grand nombre, le plus rapide que possible, il faut qu'on soit ensemble pour vivre koinonia. C'est la même chose avec le Saint-Esprit, il faut qu'on passe du temps avec lui. D'autres questions, on dit comment que le Saint-Esprit agit en nous, comment avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Et les gens demandent, c'est quoi développer une relation profonde avec Dieu, connaître tous les avantages de Dieu, les bénéfices de Dieu, c'est simple. Il nous faut du temps pour la prière, pour lire et étudier la parole, pour l'adoration, pour être à l'écoute de sa voix. Du temps pour l'inviter à prendre place dans notre vie, de se mêler dans nos affaires, de nous conduire, de nous révéler Dieu, Christ. Car être en relation avec le Saint-Esprit, c'est d'être connecté avec le Père et le Fils, toi en un. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Mais c'est pas facile, je sais. Dans une société frénétique comme la nôtre, hyper médiatisée, hyper active, hyper connectée, hyper branchée, hyper occupée, pandémie ou pas, on est occupé, tout le monde semble courir après quelque chose, il faut être branché, accessible, diverti, toujours du bruit, de l'action, le mouvement qui installe un genre d'hyperactivité nerveuse générale. Qui nous prive des avantages de passer du temps avec le Saint-Esprit. Quelqu'un a remarqué sur l'Internet, « Comment me sentir pleinement épanoui dans ma relation avec le Dieu 3 en 1, malgré une vie bien remplie de toutes sortes d'occupations? » Il vient de répondre à sa propre question. « Comment être épanoui? Je suis tellement occupé. » Bien, c'est ça. C'est ça, exact. Je ne le blâme pas, on est comme ça. C'est pas facile, car nos occupations, addictions et divertissements prennent beaucoup de notre temps et notre attention. Et on ajoute à cela l'impatience, comme moi, tellement impatient. Je suis tellement impatient, j'ai jamais entendu le micro-ondes sonner même une fois. Hein? Vous êtes comme moi, les messieurs? On le met pour 3 minutes, il reste 30 secondes, c'est assez. Tellement impatient que j'essaie toujours de me rendre à un endroit plus rapidement que la dernière fois quand je conduis, que mon épouse ne comprend pas. Mon épouse est de New York, la ville de New York, et à chaque année, il faut visiter la belle famille en New York. Et à chaque fois qu'on quitte, je paye sur la pédale parce que je veux arriver plus vite cette fois que la dernière fois. Je veux battre mon record. Et c'est pour visiter ma belle-mère, c'est un non-sens. Je devrais prendre mon temps. Mais non, il faut aller plus vite. Puis j'aime pas arrêter pour une pause, car dès que j'arrête, je vois les voitures que j'ai passées en chemin me repasser. Puis là, il faut l'attraper, celui-là, parce que je l'avais. Right? Mon épouse a dit, t'es juste fou, c'est tout. Une impatience typique des hommes aujourd'hui et des femmes, mais qui nuit à notre vie spirituelle. Car il est impossible de cultiver une vraie vie spirituelle sans qu'on arrête de temps en temps, uniquement et précisément pour passer du temps avec Dieu et être rempli de son esprit. La communion, le koinonia de l'esprit est impossible sans jamais prendre le temps pour arrêter, se débrancher afin d'être à l'écoute de Dieu. Et si je néglige Dieu, si je néglige ces pauses spirituelles, que ce soit 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une heure, peu importe, ce n'est pas ça, ce n'est pas la forme, ce n'est pas les règlements qui sont importants, c'est le fait de prendre un temps, inviter le Saint-Esprit, passer du temps avec Dieu dans sa parole, l'adoration, juste lui donner accès à un moment tranquille à tous les jours parce qu'on a besoin, parce que quand on néglige, on part, on ne lui donne pas le temps nécessaire, on pense qu'on ne fait rien de mal, mais allons, on parle la puissance et les avantages, les bénéfices qui accompagne une vie conduite par et avec l'Esprit. Donc, un des premiers bénéfices, c'est la foi. C'est pour ça que Luc nous dit en Actes 6 et Actes 11, il décrit deux hommes, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Barnabas était un homme de bien, plein de l'Esprit Saint et de foi. Le Saint-Esprit et la foi vont main dans la main. Et ce n'est pas pour rien que Luc nomme souvent la foi comme qualité des hommes remplis de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne la foi, inspire la foi et nourrit la foi. Et la foi est quelque chose que nous avons besoin aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est une des raisons pourquoi que moi j'ai cultivé dans ma vie des pauses prières. J'essaie de développer communion de l'esprit. Que la prière, pour moi, ce n'est pas seulement donne-moi, bénis-tel, mais c'est vraiment de passer du temps riche dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, inviter le Saint-Esprit à parler, à conduire, à m'aider. Il y en a qui vont dire, oui, mais Pasteur Marc, c'est parce que tu es un homme spirituel. Non, c'est parce que je ne suis pas un homme spirituel. C'est pour ça que je le fais. Pas parce que je suis spirituel, non, parce que je ne suis pas. Et je comprends que si je n'ai pas l'aide de Dieu, bien, je suis fait. J'ai besoin de Dieu, comme vous avez besoin de Dieu. J'ai besoin le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ma vie, sa grâce, son amour. J'ai besoin de ces moments avec le Saint-Esprit pour que je puisse vivre comme un homme de Dieu dans une société corrompue. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, ce n'est pas une marque de spiritualité, non. C'est une marque d'humilité pour dire, c'est parce que je ne suis pas spirituel, j'ai besoin de Dieu. Alors, c'est pour ça que je le fais. Je ne veux pas perdre aucun de ces avantages et bénéfices. Mais négliger ces pauses spirituelles, et ce n'est pas long avant que la foi donne place au questionnement, la crainte, le doute, confusion, qui gruge notre confiance. Le Seigneur est là, 3 en 1. tous les avantages de celui-là que depuis deux jours et que nous témoignons dans des moments historiques et des événements marquants, puis il est là pour nous à tous les jours. Waouh, quelle grâce! J'aime tellement Dieu trinitaire, le 3-en-1. J'aime tellement cette série 3-en-1. Je l'aime parce que ça décrit la merveille d'un Dieu trinitaire. Incompréhensible, oui, mais aussi magnifique et merveilleux comme réalité divine. 3-en-1. Nous ne voudrons pas un Dieu différent que ça. C'est ce mystère magnifique qui rend Dieu Dieu. Il y a ceux pour qui la Trinité pose un problème. C'est trop complexe, trop casse-tête pour moi. Voulez-vous vraiment rendre Dieu à un être simple, facile à comprendre et décrire? Personnellement, je ne veux pas que Dieu soit comme moi. Moi, je veux qu'il soit mieux, plus fort, plus parfait, plus profond, plus wow que moi. Et heureusement, il est. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et merci Seigneur pour ça. J'ai besoin d'un Dieu qui n'est pas comme moi. J'ai besoin d'un sauveur rédempteur, un Dieu capable, un Dieu fort, un Dieu qui est là pour moi, qui est capable à m'aider. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Commande une bonne main d'applaudissement à Dieu qui n'est pas moi comme moi. Alors moi, j'aime le mystère de qui Dieu est. Il est qui il est. Et je termine avec cette citation. Les musiciens s'avancent ici en avant. J'aimerais juste terminer avec un mot de prière pour et avec vous. Mais on peut dire que, oui, le Dieu 3-en-1 est au-delà de notre compréhension humaine limitée, peut-être, oui, mais entièrement digne de notre admiration, notre affection, notre allégeance et nos acclamations. Et je termine avec une citation de l'ancien athée écrivain Alistair McGrath. Il était un écrivain converti en croyant chrétien, PhD, professeur d'université à Londres, Angleterre. C'est un peu long, mais c'est très riche. Écoutez ce qu'il dit ici par rapport à ce Dieu. J'étais un athée endurci qui a découvert le christianisme lorsque j'étais étudiant à l'Université d'Oxford. Ce fut une expérience excitante et gratifiante. Avec le temps, j'ai réalisé que Dieu est si grand que nos esprits petits ne peuvent le contenir. Lorsque nous sommes confrontés à une chose beaucoup plus grande que notre capacité à le saisir entièrement, notre instinct naturel est de réduire cette chose à notre échelle. Il n'y a rien de mal à cela, sauf si nous croyons que notre version réduite de la réalité représente ce que les choses sont vraiment. Il faut bien le réaliser. Nos esprits sont trop petits pour saisir toute la grandeur de Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que nos capacités mentales. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à un charmant slogan. C'est comme essayer d'attraper la fumée avec nos mains ou essayer de mettre dans un pot le parfum d'un brise d'été. Dieu ne peut être apprivoisé. Il résiste suprêmement à nos tentatives de réduire sa réalité à notre niveau. Dieu est notre Créateur. Nous sommes rachetés en Christ et il habite en nous à l'instant même par le Saint-Esprit. Après tout, voilà une des raisons pour laquelle les chrétiens adorent Dieu. Nous réalisons que Dieu est si grand et glorieux que nous voulons le louer. Dit-on oui et amen à cela. On est là parce que nous voulons louer le Seigneur. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas des fois. Pourquoi que vous allez aller c'est imposition, obligation, culpabilité. Pourquoi tu te déranges un dimanche matin pour être là? Les gens ne comprennent pas. On n'est pas là par imposition ou obligation. On est là parce que nous voulons être là. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons louer le Dieu 3-en-1 parce qu'il est magnifique, admirable, merveilleux, puissant et digne de notre louange et notre adoration. Moi, j'aime le Seigneur. J'aime Dieu comme il est. 3-en-1, que je comprends entièrement ou pas, j'aime, il est qui il est et il mérite notre louange. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment tout le monde debout pour un instant?